Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, non, nous n'avons pas pu voir Jurassic World Fallen Kingdom, un film d'action et de baston, ni Volontaire, d'Hélène Filière, autre film sur la baston, mais qui se déroule cette fois-ci dans la Marine Nationale. Alors, on aurait pu voir Alberto Giacometti et Una Question Privata, des frères Taviani, mais on le garde pour la semaine prochaine. Et au lieu de ça, eh bien, Marine a fait une session de rattrapage et parlera de deux films en salle depuis le 30 mai, Mon Quête et L'Extraordinaire Voyage du Fakir, deux films qui trustent une bonne partie des écrans français. Et puis toi, Manu, tu as vu un film qui nous rappelle comment une femme peut se faire éclipser pour son physique.
Notre Hedy Lamarr, hein, actrice finalement très culte dans les années 30, 40 et 50, et finalement peu connue aujourd'hui. Donc c'est un documentaire d'Alexandra Dean, un premier film plutôt réussi. Et puis je vous parlerai de Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola.
Voilà, qui ressort sur les écrans, film des années 70. Quant à moi, eh bien, je vous parlerai du film de Jafar Panahi, Trois visages, qui était en compétition à Cannes. Ça donnera l'occasion de parler, d'écouter non pas le réalisateur qui était absent du festival, parce qu'il n'a pas le droit de sortir de son pays, mais en revanche, il y avait son film qui était présenté, et puis aussi l'équipe de son film qui a pu en parler. Donc, on les écoutera. Et puis, je vous parlerai d'un autre film qui sort sur moins d'écran, c'est The Cake Maker, un film de l'Israélien Ophir Raoul Grezer. C'est Cinérama qui débute.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
N'importe quelle femme peut avoir l'air glamour, il suffit de rester immobile et de prendre un air stupide. Alors c'est par ces mots cinglants et lucides proférés par Eddie Keisler, devenu plus tard donc Hedy Lamarr pour les besoins de sa carrière, que débute ce passionnant documentaire retraçant la vie d'une des plus grandes actrices de l'âge d'or hollywoodien des années 30 à la fin des années 50. Alors la débutante Alexandra Dean ne cherche pas à innover, et puis elle se plie à l'exercice de la fonction avec humilité et panache, ne cherchant à aucun moment à poser sur le métrage une touche personnelle. On peut le regretter, mais cette absence de signature permet au contraire d'aller à l'essentiel et d'être captivé par une de ces histoires insensées sur les dessous d'Hollywood qui n'a nul besoin de passer par une forme originale. Alors étrangement, Hedy Lamarr a perdu au fil du temps son statut d'icône de beauté absolue. Les cinéphiles finalement se souviennent davantage d'Ava Gardner, de Lana Turner ou encore Lorraine Bacall. Soyons honnêtes, Lamarr n'a pas toujours eu le flair dans le choix de ses rôles, n'ayant joué que dans très peu de grands films. On retiendra d'elle surtout le célèbre et assez médiocre Casbah de John Cromwell, et puis sur deux chefs-d'œuvre de la série B aussi, Angoisse de Jacques Tourneur et Le démon de la chair d'Edgar Ulmer. Alors, mais commençons par le début. Hedy Keisler est née en Autriche en 1914. Elle débute très tôt au cinéma, dès 1919, dans des petits rôles, et en l'occurrence dans Vendetta ou Napoléon, mais son premier coup d'éclat qui suscitera un scandale au sein de la profession et ailleurs aussi, elle le doit à Extase, un film choc pour l'époque dans lequel elle dévoile ses charmes. On peut même dire que c'est le premier film mainstream à montrer une paire de seins à l'écran.
Mais ça a revigoré les troupes américaines, me semble-t-il.
Oui, comme tous ces films un peu, je dirais, un peu olé-olé dans lesquels jouaient ces actrices qui étaient un peu des icônes pour, notamment pour l'armée américaine. Alors elle épouse aussi à ce moment le fabricant d'armes, Friedrich Lambie, qui faisait alors affaire avec les nazis, mais dans Londres, puisqu'il était d'origine juive. Alors pour cette raison, Lamarr va quitter son mari et s'exiler donc aux États-Unis. Débute alors la gloire, la frustration et la chute face à cette contradictoire d'un monde de paillettes où le succès et la reconnaissance artistique ont toujours un prix à payer. Alors celui à payer pour Lamarr était d'un ordre tout à fait insolite. À force de jouer avec son image glamour sous les feux des projecteurs, Hedy Lamarr a créé sa propre prison dorée et n'a jamais pu affirmer son intelligence, son talent d'inventrice. Alors ce revers de la médaille d'un monde d'illusions est très bien décortiqué par le documentaire qui alterne les images d'archives et les interventions de quelques célébrités, dont Mel Brooks et la famille de l'actrice, ses enfants en l'occurrence. Alors sans rentrer dans les détails, elle a inventé un système secret de codage des transmissions aboutissant alors aujourd'hui au GPS et au Wi-Fi. Alors rien que ça, mais son brevet fut scellé et enterré par l'armée pendant de nombreuses années. Alors cet échec personnel marquera une rupture dans la carrière de l'actrice, et si elle apparaît encore dans des grosses productions comme Samson et Dalila de Cécile B 2000 en 49, le déclin est proche. Obsédée par son image, elle va s'adonner régulièrement à la chirurgie esthétique jusqu'à en devenir effrayante, sombrée dans la dépendance des amphétamines sous l'impulsion du docteur Feelgood. et ne trouvera plus de rôle à la hauteur de son talent. Elle défrayera la chronique pour des histoires de vol à l'étalage et de mariage foireux. Donc elle interrompt définitivement sa carrière en 58, à l'âge de 44 ans. Puis elle disparaît totalement de la circulation. Alors Hedy Lamarr, le documentaire, retrace ce parcours extraordinaire d'une femme à multiples facettes, féministe aussi avant l'heure par son goût de la liberté, inventrice plus intuitive qu'intellectuelle et icône de la beauté physique ayant inspiré d'ailleurs le visage de Blanche-Neige de Walt Disney. Alors le film d'Alexandre Adine finit par toucher en pointant un système qui, s'il peut vous apporter la gloire, n'en demeure pas moins pervers, phagocytant vos capacités à élargir vos domaines de compétences. En gros, si t'es canon, ferme-la et ne fais pas de vagues. Alors une beauté fatale se doit de rester telle qu'elle jusqu'au jour où les affres du temps la mettent hors course. Et même si cette beauté avait d'autres cordes à son arc, petite consolation, son brevet fut déterré, reconnu en 90. Mais cette reconnaissance tardive et non posthume, puisqu'elle est décédée en 2000, voilà, c'est ça, n'arrive-t-elle vraiment pas trop tard pour cette vieille dame retirée du monde qui semblait alors ailleurs, loin de ce rêve qu'elle a toujours caressé? Alors pour conclure, je dirais que c'est une biographie passionnante, assez émouvante finalement, qui cherche pas à gommer le caractère un peu compliqué quand même de l'actrice, qui était parfois, paraît-il, insupportable sur les plateaux.
Eh bien, ce documentaire est visible dans les salles depuis le 6 juin. Et là, on va faire un petit rattrapage. On va passer d'une icône féminine du cinéma à une icône de la caméra cachée avec François Damien, qui a sorti Mon Quête. Le film est dans les salles depuis le 30 mai.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
Il est où ton papa ?
Il est là.
Et oui, il est là. Et maintenant, il ne partira plus.
Le procédé n'est pas nouveau. Héloïse Lang l'avait déjà expérimenté dans Connasse princesse des cœurs. Il s'agit d'étirer le système des caméras cachées qui consiste à piéger des gens en les mettant face à des situations embarrassantes et d'intégrer ce processus donc au sein d'un vrai scénario. Dans Mon Quête, réalisé lui par François Damien, la trame est basique mais efficace. Danny Vauravel, interprété par le même François Damien, affublé d'une perruque et d'un faux nez, est prêt à tout pour récupérer son fils, son Quête, donc à sa sortie de prison. Son fils, joué par un comédien lui aussi, n'a pas spécialement envie de renouer avec ce père encombrant et l'essentiel du film repose sur les interactions entre le personnage de François Damien et les gens qui transitent autour de son film. Pour fluidifier l'ensemble, certains personnages sont des comédiens et certaines scènes ne comportent donc que ces comédiens qui jouent ensemble. Le problème du film Connasse, c'était le manque de diversité des points de vue, limité par le fait que les caméras soient cachées, par exemple, dans des sacs. Dans Mon Quête, et c'est ce qui semble presque trop beau pour être vrai, on a multiplié les caméras, les angles de vue et les échelles, ce qui, au final, donne une mise en scène presque classique. Et c'est également ce qui donne quelques doutes quant à la véracité de la chose. Car la mise en scène est poussée ici très loin. Par exemple, ils vont jusqu'à tourner un faux journal télévisé qui raconte l'évasion de François Damien pour le diffuser dans une salle d'attente. Et c'est vrai que François Damien, ayant bâti sa célébrité sur les caméras cachées, on a un peu de mal quand même à croire que les gens ne le reconnaissent pas, d'autant qu'il joue en Belgique. Alors naturellement, les scènes ont été recommencées avec différents intervenants. On imagine que ça n'a pas marché à tous les coups, mais on passe quand même tout le film à s'interroger. Alors le job de François Damien ici, c'est de pousser chaque situation à son niveau de malaise maximal. Et finalement, ces scénettes deviennent ainsi de formidables révélateurs de la nature humaine qui nous interrogent aussi sur ce que nous aurions pu faire à la place des gens piégés. Et puis il y a quand même quelque chose qui est vraiment appréciable, c'est que jamais les gens ne sont tournés en dérision. François Damien reste la seule personne qui est ridicule et on ne peut qu'admirer une fois de plus son sens de l'improvisation. Alors donc, est-ce que c'est un film qui vaut le coup ? Oui, je dirais oui, ne serait-ce que pour la scène des tapas à la choucroute.
Ah mais vous êtes malin.
Découragez pas, hein, madame.
Mais vous êtes complètement malin, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Mais vous êtes débile.
Alors Marine n'est pas présente avec nous, elle nous a parlé de Mon Quête, qui faisait partie des grosses sorties du 30 mai. Elle reviendra un peu plus tard dans l'émission pour l'extraordinaire Voyage du Fakir, autre sortie du 30 mai. On passe maintenant à un film qui est sur les écrans depuis le 6 juin, c'est Trois visages de Jafar Panahi. Alors Everybody Knows d'Asghar Farhadi a fait l'ouverture à Cannes, il a dépassé les 700 000 spectateurs en France actuellement. À mon avis, le film de Jafar Panahi, son compatriote, fera un peu moins de spectateurs. Mais on en parle maintenant et on écoutera l'équipe du film.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
De retour de Cannes, commentant le palmarès, j'avais indiqué combien le prix du scénario attribué ex aequo à Trois Visages, le film de Jafar Panahi, m'apparaissait étrange tant celui-ci suivait une forme linéaire quasi dictée par une écriture de documentaire ou d'enquête. On rencontre un personnage A qui nous emmène voir un personnage B, mais en route, eh bien, on est contrarié par un personnage C, etc. Un prix d'autant plus étrange qu'il s'agit d'une mise en abîme dans Trois Visages qui concourait à Cannes. Jafar Panahi est tout comme il l'était dans Taxi Téhéran, son précédent film, présent dans une voiture jouant son propre rôle. Alors il chemine vers la partie turque de l'Iran au volant d'un 4x4 aux côtés d'une actrice, Behnaz Jafari, qui elle aussi joue quasiment son propre rôle puisqu'elle interprète une actrice de la télévision qui a fait son succès dans les séries. Alors ces deux-là, qui se connaissent bien et sont en grande discussion, eh bien, sont en route vers un village où vit une jeune fille qui a adressé à l'actrice une vidéo sur portable dans laquelle elle crie son désespoir de ne pouvoir poursuivre de carrière de comédienne car sa famille l'en empêche et elle menace de se suicider si la célèbre actrice ne lui vient pas en aide. Alors pour l'actrice, il s'agit donc de savoir si la jeune fille n'est pas en train de la manipuler et si tiens, pendant qu'on y est, eh bien ce ne serait pas le réalisateur Jafar Panahi qui aurait monté cette histoire de toute pièce. Un fameux prétexte pour faire un film. C'est précisément ce qu'on va voir. La quête de la vérité va nous emmener dans un village perdu qu'on pourrait qualifier de conservateur où les habitants eh bien, suivent leurs règles. Il en va des passages des voitures au niveau du col de la vie et de la mort des taureaux comme de la méfiance à l'égard de ce qu'ils appellent encore des saltimbanques et de ce que doit faire ou ne pas faire une jeune fille. Après nous avoir fait tourner pendant des heures dans la capitale iranienne dans Taxi Téhéran, son précédent film, Jafar Panahi propose un road movie dans la ruralité. Alors c'est pour y ausculter certes des us et coutumes d'un autre âge, même confronté à la modernité des portables, mais aussi pour tisser le portrait, on pourrait dire esquisser le portrait de trois femmes. Les fameux trois visages du titre qui ont en quelque sorte un point commun. L'une est actrice célèbre, l'autre veut devenir comédienne et enfin un autre personnage qu'on ne verra jamais, le réalisateur en fait un formidable hors-champ. Eh bien il s'agit d'une actrice qui a eu son heure de gloire avant la révolution islamique et qui vit maintenant reclus dans ce village. Alors comme je le disais, le scénario est simple, le film avance entre fiction et réalité, sachant que le tournage est fait un peu à la va-vite, sans autorisation, mais c'est bien plus simple, j'imagine, pour le réalisateur de faire un film à l'autre bout du pays que dans la capitale. En tout cas, Jafar Panahi ménage son spectateur en nous immergeant dans une douce comédie de mœurs et tout en rendant hommage aux femmes et à l'art. On croise dans ce film une palette de personnages qui tournent autour d'un repère, c'est celui du réalisateur qui ne se mêle pas avec tout le monde mais qui observe, questionne et apprend. Alors Trois Visages bénéficient d'une aura particulière car le réalisateur n'a plus le droit de tourner en théorie, il est censé faire de la prison sans la faire, mais dans tous les cas il n'a pas le droit de quitter son pays sous peine de ne plus y revenir, donc il ne prend pas le risque de partir, voilà, parce qu'il aime son pays. Alors ce qui n'empêche pas son film d'être à Cannes avec son équipe. Alors l'équipe nous parle des conditions de tournage et de Jafar Panahi, un des grands absents de ce festival de Cannes. On écoute Behnaz Jafari, donc l'actrice, une des actrices, Marzieh Rezaï, une autre actrice, et puis Amin Jafari, qui était le chef-op de ce film Trois Visages.
Vous avez raison, quand vous parlez des restrictions qui concernent les lieux de tournage, évidemment il y a des lieux trop en vue où on ne peut pas tourner et on évite tout ça, mais Jafar arrive toujours avec son scénario très détaillé, donc il sait vraiment ce qu'il cherche comme lieu de tournage, comme plan, comme encadrement, etc. Et il est toujours très ingénieux, il trouve toujours les moyens, les solutions pour arriver à ce qu'il voulait. Nous, techniquement, on l'a aidé pour finalement arriver à ce qu'il voulait et on n'a jamais rencontré des problèmes vraiment qui auraient en quelque sorte affecté le film. Oui, les conditions étaient très correctes, je crois. On pouvait travailler dans les conditions plus ou moins standards. Techniquement, je ne crois pas qu'on a eu de gros problèmes. On a travaillé comme on voulait. Mais évidemment, il y a toujours les restrictions qui provoquent des problèmes imprévus. Mais comme d'habitude, Jafar Panahi est là pour les résoudre et trouver des solutions judicieuses.
Oh, baba! Bunlar çiftliği elbette.
Évidemment, son grand espoir est de pouvoir montrer ses films, et particulièrement ce film en Iran. Je pourrais même vous avouer qu'il a plusieurs fois dit qu'il était prêt à ne pas présenter son film au festival, mais pouvoir le projeter en Iran. C'est son grand espoir. C'est vraiment ce qu'il voit dans le futur, ce qu'il se concentre dessus, c'est la possibilité de la projection en Iran. Mais évidemment, le connaissant très bien, elle sait que son choix va vers la projection en Iran plutôt que quoi que ce soit. Il a toujours voulu que ses films soient projetés en Iran, bien évidemment. C'était son espoir et son vœu. Mais bon, depuis quelque temps, le vœu n'a pas été exaucé. Mais il espère toujours que pour ce dernier film, il y aura des projections en Iran. On verra bien. Mais le film n'est pas particulièrement politique, vous l'avez vu. C'est une histoire qui aurait pu se passer n'importe où. Et donc, en principe, peut-être qu'il n'y aura pas de problème pour la projection de ce film. Moi, le rapport que j'ai eu avec le caractère que je jouais m'intéressait beaucoup et j'ai tout de suite pu rentrer dans l'idée qu'on voulait donner de cette actrice ou de cette prétendante actrice parce que moi, j'ai fait l'université de l'art à Téhéran et j'ai connu beaucoup de cas, des amis qui étaient en classe avec moi et qui avaient exactement les mêmes problèmes. Les garçons avaient des problèmes d'argent, c'est-à-dire ils devaient gagner leur vie, ils ne pouvaient pas se permettre d'aller faire l'acteur pour voir si ça allait réussir ou pas. Et les filles, il y avait des questions de tradition, de culture qui les empêchaient de faire tout ça. Donc j'ai vraiment rencontré beaucoup de cas qui ressemblaient aux cas de cette jeune fille du film. C'est pour ça que tout de suite, j'ai pu me mettre à sa place et je suis entrée dans sa peau. Ça m'allait comme des gants. Je ressentais très bien tout ce qu'elle pouvait ressentir et ce qu'elle essayait de faire avec beaucoup d'acharnement. Je ressentais tout ça.
Oui, klaxon, car voiture, road movie, donc du côté turcophone de l'Iran, avec trois visages de Shafar Panahi. On écoutait les deux actrices du film ainsi que le chef opérateur qui était présent à Cannes pour présenter ce film sur les écrans depuis le 6 juin.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Et maintenant, eh bien, Marine revient sur les films qui sont dans les salles depuis le 30 mai. Et c'est le cas de l'extraordinaire Voyage du Fakir de Ken Scott, où là aussi, eh bien, les questions de quitter ou ne pas quitter son pays.
Mon nom est Ajata Chatrou, la vache Patel.
Allez, mange. Il va bien falloir que tu prennes des forces si tu veux que je t'emmène à Paris un jour.
Approchez, venez voir le célèbre Ajat.
Quand j'étais jeune, je ne savais rien du tout du reste du monde. Et un jour, j'ai reçu la mauvaise nouvelle.
Maman !
Aja est un jeune arnaqueur magicien à 16 heures qui vit à Bombay et rêve d'emmener sa mère à Paris. Malheureusement, elle décède avant l'heure et il part donc seul et sans rien, mais avec l'obsession de visiter en vrai un magasin Ikea, pour lui représentatif de l'Europe. Il y rencontre une jeune Américaine dont il tombe instantanément amoureux, mais les problèmes commencent alors. Lui, qui avait réussi à obtenir un rendez-vous romantique le lendemain, décide de passer la nuit dans une armoire Ikea, puisqu'il n'a aucun autre endroit où aller, armoire qui est envoyée à destination de Londres. Il rencontre sur le chemin des migrants somaliens et s'en suivent d'innombrables péripéties qui vont le mener en Espagne, à Rome et même en Libye.
Je peux savoir ce que vous faites dans ma malle à moitié nue ?
Je ne pouvais écrire que sur ma chemise. Et j'ai pas pu la remettre. Je suis désolé.
Vous êtes auteur ?
Oui. J'avais pas de papier. Je suis même sans papier.
Vous êtes un réfugié ?
Alors attention, un feel-good movie s'est annoncé sur l'affiche, donc vous êtes obligé de vous sentir mieux lorsque vous sortez de la salle. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est plutôt réussi, c'est mignon, et plus d'une séquence vous donne le sourire, grâce à une naïveté assumée qui ne sombre pas pour autant dans la mièvrerie. Adapté d'un roman français qui s'intitulait « L'extraordinaire histoire du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA », le film n'est heureusement pas une longue publicité pour le géant suédois, et c'est le Canadien Ken Scott qui l'a réalisé, à qui l'on doit le réussi Starbuck. Le film est donc une coproduction franco-indienne. On y retrouve un casting international, donc Bérénice Bejo, et dans le rôle principal, un certain Danouche, inconnu chez nous, mais véritable star du cinéma tamoul. Alors on pense à Lion, on pense à Slumdog Millionaire, à l'Odyssée de Pi. Est-ce parce que l'Occident a toujours les mêmes façons de raconter les histoires d'Indiens, avec ce même folklore qui sent le curry, la même vision aseptisée des villes indiennes bien colorées, assez loin de la réalité ? Eh bien sans doute. Ici, le film mixe un peu de Bollywood, un peu de conte, un peu de roman initiatique, un peu de voyage en forme de carte postale, avec une volonté assumée d'idéaliser les choses qui ne se passent pas toujours très bien dans la vraie vie. Le seul souci du film, eh bien, c'est qu'il dédramatise vraiment tout. Et le problème majeur que pose le film est, peut-on rire de tout ? Peut-on rire notamment de la situation des réfugiés ? Peut-on rire de l'immigration clandestine ? Même si c'est pour délivrer un message de tolérance, est-ce que le fait de voir des réfugiés dans le film vivre dans de jolies tentes bien colorées et chanter ensemble le soir, est-ce que ce n'est pas nier totalement une réalité beaucoup plus dure ? Alors oui, c'est un feel-good movie, mais lorsque l'on sait que malheureusement dans la vraie vie, eh bien 99,9% des histoires de réfugiés clandestins se finissent mal, on a un peu du mal à croire en celle-ci.
Vous êtes tous des clandestins ?
Et pas toi ?
Je suis un touriste.
Qui voyage dans une armoire ?
Oh, elle est bien bonne. Voilà, c'était l'extraordinaire voyage du fakir. Et bien maintenant, on va parler d'un film emblématique des années 70, c'est celui d'Ettore Scola.
Et maintenant ?
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Regardez bien, Gianni achèvera son plongeon à la fin de cette histoire. Qui a commencé il y a 30 ans.
Alors bienvenue hein, dans l'univers de la comédie italienne des années 70 qui nous manque tellement avec Nous nous sommes tant aimés, mini-fresque balayant, on va dire, une partie de l'histoire de l'Italie de l'après-guerre au milieu des années 70. Alors décédé en février 2016, hein, Ettore Scola a laissé une empreinte importante au sein du cinéma italien, naviguant régulièrement entre la comédie sociale, parfois ultra-corrosive, hein, comme Affreux, sale et méchant, et puis le mélodrame à l'image du poignant Une journée particulière, sans doute la plus grande réussite de son auteur. Alors la ressortie en copie neuve et restaurée de Nous nous sommes tant aimés permet ainsi d'apprécier les deux facettes du cinéaste, tant le film jongle en permanence entre gravité et légèreté. Alors le récit de cette comédie nostalgique, écrite par les incontournables Age et Scarpelli, les deux scénaristes les plus connus de la comédie italienne, hein. Donc s'articule autour de trois amis inséparables, hein, membres de la résistance italienne, Gianni, Nicolas et Antonio. Ils vont tomber amoureux de la même femme, hein, Luciana, apprentie comédienne, aussi candide que touchante, mais qui sera à l'origine de leur mésentente. Alors il faut dire aussi qu'elle est interprétée par la sublime Stefania Sandrelli et elle a de quoi faire craquer tous les hommes de la terre.
Comme tu me plais, Gianni. Je ne te connais que depuis quelques minutes. Je suis déjà amoureuse de toi, comme ça n'arrive qu'au théâtre, dans les comédies d'amour. Ça peut donc arriver dans la vie, des choses pareilles.
Ça peut arriver, Luciana, puisque je ressens la même chose que toi. Mais il ne faut pas parce que Antonio est mon meilleur ami. Qu'il emportera l'amitié ou l'amour. Choisirons-nous d'être honnêtes ou d'être heureux ?
Un dilemme mis en forme alors d'une manière assez étonnante. Hein.
Très belle, hein, ouais. Il y a beaucoup de séquences comme ça, un peu oniriques dans le film. Vraiment, c'est...
Vraiment du clair-obscur, hein. Très franc.
Alors c'est un peu, hein, que reste-t-il de nos amours et de nos idéaux, hein, semble s'interroger un Ettore Scola généreux et assez lucide. Hein. Après 45, hein, à passer l'engagement contre un même ennemi, les trois compères vont progressivement prendre des routes divergentes. Le cinéaste prend clairement parti pour Antonio, le prolétaire, brancardier dans un hôpital qui n'a jamais changé son fusil d'épaule. Il est l'homme du peuple, simple et honnête, celui qui n'a jamais fait de compromission sans s'ériger en héros révolutionnaire. Alors Nicolas, le cinéphile et l'intellectuel dans toute sa caricature ou sa splendeur, c'est comme on veut, hein, incapable de, par aveuglement et égoïsme de nourrir sa famille, son manque de discernement et son arrogance vont le mener à sa perte, finissant par s'accrocher à de minables jeux télévisés. Gianni enfin incarne lui l'arriviste dans toute sa splendeur, un symbole de l'enrichissement de la classe moyenne au détriment de toutes les valeurs qu'il brandissait jadis. Au début du film, d'ailleurs, c'est celui qui est le plus révolutionnaire, le plus, et c'est celui qui va finalement abandonner toute conviction au profit de l'argent, en fait. Hein. Alors, Scola sous-tend l'idée que la culture pervertit un peu les individus, que l'intelligence dans un monde injuste nous rend parfois aigris. Il tend un miroir moraliste de la société italienne d'après-guerre en prenant ouvertement parti pour Antonio, le seul à mériter l'amour de Luciana. Alors, par ce côté manichéen, Scola frise le discours populiste de gauche et manque parfois de subtilité dans son approche des personnages. Mais les petites faiblesses du scénario sont néanmoins portées par une mise en scène hein, faussement datée, notamment dans le choix du noir et blanc jusqu'à la moitié des années 60, avant de passer à la couleur. Alors ce choix stylistique est cohérent si l'on tient compte que tout le film peut se voir aussi comme un hommage vibrant au cinéma italien étalé sur 3 décennies. Alors Nous nous sommes tant aimés embrase en un même mouvement tous les styles, alors du néo-réalisme à la Rossellini, au baroque de Fellini, en passant par le tragicomique d'un Vittorio De Sica, beaucoup cité dans le film, et l'univers introspectif d'Antonioni. D'où une forme un peu hétéroclite, hein, parfois très inventive, lorsque le cinéaste convoque le théâtre lors d'une scène d'anthologie, et plus conventionnelle quand les personnages s'adressent à la caméra. C'était vraiment des effets vraiment typiques des années 60-70, et c'était sans arrêt. Hein, Mais la beauté du geste l'emporte dans ce mélodrame doux amer, parfois très drôle et surtout très émouvant, traversé par des séquences devenues cultes avec le temps, notamment la magnifique reconstitution d'une séquence de tournage de la Dolce Vita, avec Mastroianni et Fellini dans leur propre rôle. Hein. C'est un grand moment de cinéma hein, qui ne peut que donner des frissons alors aux cinéphiles et même aux autres. Hein. Bon, si on reconnaît Mastroianni dans une des séquences les plus célèbres de la Dolce Vita près de la fontaine. Alors bien sûr, le film ne serait rien sans ces 3 comédiens absolument magnifiques, hein, Nino Manfredi, l'impérial Vittorio Gassman et le plus méconnu, hein, Stefano Satta Flores, aperçu notamment dans des films de Dario Argento et 4 mouches de velours gris. Bon, c'est ma petite référence à moi. Alors, sorte d'accomplissement entre films d'auteur et cinéma populaire, alors en déclin, hein, Nous nous sommes tant aimés, vraiment un beau film mélancolique, malgré ses naïvetés narratives. Arthur Penn s'en souviendra, puisqu'il signera le magnifique Georgia, qui est une sorte de remake américain du classique de Scola, qui lui commence, on va dire, dans les années 60 avec le Flower Power pour finir au début des années 80.
Voilà, ce film d'Ettore Scola donc, ressort sur un certain nombre d'écrans en France. Certaines salles décident de le ressortir et c'est tant mieux parce que c'est une copie restaurée.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on fait vite avec un film dans les salles depuis le 6 juin, c'est The Cake Maker. Le scénario de The Cake Maker, soit le pâtissier en quelque sorte, hein, n'est pas nouveau. Oren, un quadra marié israélien qui va régulièrement à Berlin, a une liaison avec Thomas, un jeune pâtissier. Alors il se voit à chacun de ses voyages, jusqu'au jour où le voyageur israélien n'ouvre plus les portes de la pâtisserie et ne goûte plus aux douceurs du pâtissier. Thomas, qui n'avait que son boulot et cette histoire dans sa vie, est démuni et décide donc d'aller en Israël pour comprendre. Un accident de voiture aura décidé du sort de leur relation. Mais le jeune Allemand n'en reste pas là, il s'acharne et souhaite s'imprégner de la vie de son amant, au point qu'il entre en contact avec son épouse, sans bien sûr lui signaler la liaison avec son défunt mari. Anat, l'épouse, donc, vit avec son fils et tient un petit salon de thé cachère que Thomas, sans trop d'efforts, va faire décoller grâce aux délicieuses pâtisseries qu'il concocte. Alors, on tente bien de lui mettre des bâtons dans les roues en lui faisant comprendre qu'il n'est pas juif, qu'il ne peut pas utiliser le four un jour de Shabbat, mais il glisse sur les obstacles, Thomas, tout en mystère. Il reste aux côtés de la femme de son ex-amant, au risque de développer, finalement, chez elle, bien d'un coup, si seul, des sentiments troublants. The Cake Maker parle du deuil, mais n'en fait pas le sujet du film, hein, même si les 2 personnages principaux se reconnaissent au travers de cette douleur. Le cœur du film est la liberté et en quelque sorte son contraire, la privation. Alors qu'on sait que le défunt mari avait une sexualité ambiguë, eh bien les personnages sont placés, voire enfermés dans un dogmatisme du cachère et de la religion, à cause notamment d'un beau-frère ultra-orthodoxe. La mise en scène appuie ce versant dont finalement on ne comprend pas bien l'intérêt, hein, si ce n'est à renverser l'opposition Allemagne-Israël finalement, hein, une espèce de vieille altérité, en nous faisant comprendre que l'État hébreu file une mauvaise pente. Alors dans The Cake Maker, puisque les mots ne suffisent pas, la liberté et l'amour s'expriment aussi sur le ton de la nourriture, des sens et des papilles. The Cake Maker est avant tout un doux mélo qui aurait pu devenir un feel-good movie. Sa mise en scène est parfois trop voyante et des scènes demeurent trop prévisibles, mais le réalisateur Ofir Raoul Greiser, qui est israélien, sait doser son récit en nous gratifiant de quelques belles scènes, dont notamment les scènes de baisers qui ont de quoi troubler le spectateur par leur intensité et leur douceur.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On se retrouve la semaine prochaine, on vous parlera de 3 jours à Quiberon, un film sur Romy Schneider qui a passé 3 jours à Quiberon.
Et puis peut-être Jurassic Park, le nouveau, et puis Sicilian Ghost Story.